Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Le populisme va-t-il une nouvelle fois s'imposer en Europe? La question est sur toutes les lèvres à la veille des élections législatives aux Pays-Bas. La formation anti-islam, anti-immigration, anti-UE, le parti pour la liberté de Geert Wilders, pourra bien arriver dans le peloton de tête, même s'il lui sera très difficile de former une coalition. Aux Pays-Bas, Aline Vavreille et Christian Mazuy de la RTBF sont allés rencontrer ses électeurs très eurosceptiques qui veulent faire entendre leur voix.
Ambiance de carnaval à Rukven, une petite ville près de la frontière belge, un bastion du parti PVV, le parti europhobe. Dans un petit café, rencontre avec Miranda, la quarantaine. Si elle soutient Geert Wilders, c'est notamment pour son discours radical envers les réfugiés.
Les réfugiés qui viennent ici, ils reçoivent une maison, ils se font aider. Pour moi, pas de problème, mais ils reçoivent tous les soins de santé, ils reçoivent tout. Alors que les personnes âgées, par exemple, elles doivent épargner pendant des années pour avoir une nouvelle paire de lunettes. Et eux, ils reçoivent tout tout de suite.
L'Union européenne, elle est d'abord vue sous cet angle-là, celui de la crise des réfugiés et des frontières qu'il faut absolument fermer, selon les partisans de Geert Wilders. Remco répète à l'envi son slogan.
Le meilleur pour notre pays, avec du travail ici, seulement aux Pays-Bas, frontières fermées. Notre pays d'abord.
En filigrane, il y a donc cet argument économique, on ne va pas payer pour les autres. Pourtant, les Pays-Bas sont un pays qui va plutôt bien, et même très bien. Les Pays-Bas n'ont pas été frappés par des attentats comme la Belgique, la France ou encore l'Allemagne. Et puis, les Pays-Bas enregistrent de très bons résultats économiques. Un taux de chômage en baisse, autour de 5% aujourd'hui. Mais cet euroscepticisme est une réalité. André Crowell, politologue à l'Université libre d'Amsterdam.
On voit que les Pays-Bas, qui sont l'un des pays fondateurs de l'Union européenne et de la coopération européenne dans son ensemble, deviennent de plus en plus eurosceptiques. Il y a des partis chrétiens eurosceptiques, des partis populistes, et donc on voit dans une large part de la société qu'il y a des doutes sur l'utilité européenne. Je pense qu'aucun Néerlandais ne va contester le fait qu'il est bon d'être dans un grand marché dont on va profiter, car les Pays-Bas sont un pays de commerce. Mais ce dont les Néerlandais sont inquiets, ce sont les frontières extérieures et de qui rentre dans l'Union européenne et de la concurrence interne avec des pays du Sud et leurs travailleurs qui vont venir travailler ici et qui seront économiquement actifs.
Au-delà de l'ouverture des frontières, les Néerlandais eurosceptiques avancent d'autres arguments. À Volendam, un petit village au nord d'Amsterdam, sur la digue du port, le poissonnier nous l'assure, il ne votera pas PVV, mais l'Union européenne doit changer.
Oui, à Bruxelles, il faut y passer le balai. Ça doit être moins bureaucratique, plus transparent, avec des pays sains, pas des pays qui ne veulent pas s'aligner. On se débarrasse d'eux et on continue avec une Europe plus petite et plus saine.
Un peu plus loin, dans leur petite boutique d'objets de culte chrétien, Magriette et Harry, la soixantaine, ne sont pas d'accord.
On doit être ensemble, unis. Mais ça doit être plus petit, par pays, autant de personnes, des personnes compétentes. Mais c'est trop gros, il y a trop de personnes, c'est trop massif, trop colossal, trop de tracasseries administratives et trop éloigné des gens. Mais ils veulent bien votre argent et le mien.
Une union devenue trop éloignée des citoyens. Certains Néerlandais ont l'impression de ne plus avoir de prise sur les décisions qu'elle prend, que leur opinion n'ont plus de poids. Et l'accord d'association, que l'Union européenne veut conclure avec l'Ukraine, leur donne du grain à moudre. En avril dernier, un référendum a été co-organisé sur le sujet aux Pays-Bas par le Forum pour la démocratie, un centre de réflexion emmené par le très eurosceptique Thierry Baudet, la trentaine.
Et nous avons gagné avec un très bon pourcentage, plus de 61% des Néerlandais ont voté non. Maintenant, nous avons vu que la politique a complètement ignoré les résultats de ce référendum. Et donc, nous avons décidé de former un parti pour reprendre notre ambition de changement à La Haye.
L'accord a été renégocié avec Bruxelles, puis adopté au Parlement néerlandais il y a quelques semaines. Un timing parfait pour le Forum pour la démocratie, devenu parti politique. Il plaide pour plus de référendums que le pouvoir serait contraint de suivre. Avec comme but celui de détricoter le projet européen. L'avenir des Pays-Bas est en dehors de l'Union européenne, selon lui.
Donc, l'Union européenne, c'est un projet antidémocratique. Et si nous voulons garder notre démocratie, notre valeur d'État de droit et de démocratie, c'est absolument nécessaire que nous quittons l'Union européenne.
Une voix radicale, europhobe, mais qui compte aux Pays-Bas.
We'll be proud to say, I am an European.
Et à l'opposé de ce mouvement populiste, The Pulse of Europe, le pouls de l'Europe, est un mouvement citoyen qui entend dire tout le bien qu'ils pensent de l'UE. Chaque dimanche, ils sont des milliers à défiler dans les grandes villes d'Allemagne, mais aussi d'autres pays européens. C'était le cas le week-end dernier à Francfort et à Berlin, où nous retrouvons notre correspondant Pascal Thibault. Quelles sont tout d'abord les origines de ce mouvement ?
Alors le mouvement, c'est d'abord l'idée d'un avocat de Francfort qu'il a eu après l'élection de Trump aux États-Unis en novembre dernier. Il voulait appeler les citoyens à manifester au-delà des divisions partisanes, comme l'avaient fait les Britanniques après le vote sur le Brexit, ou bien donc les Américains après l'élection de Donald Trump. Ne pas laisser la rue aux populistes, en Allemagne par exemple au mouvement anti-islam Pegida, ou bien aux populistes de l'Alternative pour l'Allemagne, ou à d'autres extrémistes de tout poil, alors que dans un récent sondage encore la semaine dernière, 78% des Allemands plaidaient pour une Europe unie. Donc ces manifestants veulent rejeter la carte nationale contre l'Europe, montrer que la majorité silencieuse qui soutient l'Europe, eh bien elle peut elle aussi descendre dans la rue, dans les rues de 35 villes allemandes hier et de quelques autres dans des pays voisins.
Vous avez assisté à la manifestation de dimanche. Racontez-nous, Pascal.
Alors un peu plus de 5000 personnes contre 3000 il y a une semaine, donc un nombre plus important de personnes. C'est ce qu'on a pu aussi voir dans d'autres villes. Sur la plus belle place de la ville, le Gendarmenmarkt, beaucoup de drapeaux européens, on pouvait d'ailleurs les acheter aussi sur place, des prises de parole spontanées de citoyens normaux d'autres pays européens, bien sûr, une Française, un Hollandais, un Polonais, un quiz demandant aux gens qui étaient déjà nés lorsque le traité de Rome a été signé en mars 57, il n'y avait pas trop de mains, mais ensuite qui a participé au programme Erasmus ou bien qui a déjà eu un petit ou une petite amie européenne. Donc une vision plutôt festive, positive de l'Europe, contrairement aux meetings habituels, politiques ou bien où on a des revendications, où on critique une disposition gouvernementale. Un public plutôt bon chic, bon genre, il faut quand même le dire. On retrouvait sans doute les gagnants de l'Europe.
Et ces manifestations ont commencé il y a quelques semaines. Quels sont les objectifs des organisateurs ?
Alors les objectifs, comme on le disait déjà, c'était de dénoncer le populisme. Par exemple, on a beaucoup évoqué les Pays-Bas avec l'élection qui doit avoir lieu mercredi, où on craint une percée des populistes de Geert Wilders, dénoncer aussi le repli national. Et dans les semaines qui viennent, après les Pays-Bas, eh bien on va surtout dans ces manifestations se concentrer sur la France et sur le danger qu'on voit dans une montée, voire une percée du Front National. Et d'ailleurs, le dernier rassemblement prévu pour l'instant aura lieu le 14 mai, une semaine après le deuxième tour des présidentielles en France.
Merci Pascal Thibault à Berlin. Elle vient d'être sacrée meilleure cuisinière du monde par les experts du World 50 Best Restaurants Awards. La Slovène Anna Ross s'est fait un nom dans la gastronomie après une vie déjà bien remplie. Son restaurant a élu domicile au cœur d'une région touristique. Son portrait est signé Simon Rico.
Il n'y a encore pas si longtemps, le village de Kobaryd était surtout connu des amateurs de sports de rivière et de montagne. C'est là, dans la verte vallée de la Socha, à 3 kilomètres de l'Italie, que la jeune chef Anna Roche a ouvert son restaurant, Isha Franco, qui est très vite devenu une adresse incontournable pour les critiques culinaires du monde entier. Logée dans une bâtisse qui aurait accueilli Ernest Hemingway après sa blessure sur le front pendant la Première Guerre mondiale, Isha Franco ce n'est ni un restaurant, ni un hôtel, ni une auberge, mais un peu tout cela à la fois. Anna Roche y accueille ses hôtes pour un repas ou un week-end à la campagne. Elle y prépare une cuisine moderne et créative qui met en valeur les saveurs du terroir slovène. Sa spécialité, c'est le travail autour de la skuta, une sorte de fromage frais qui ressemble à la fois à la ricotta italienne et au brioche corse. Mais elle aime aussi les mélanges entre les saveurs de la mer et de la montagne, entre les ingrédients issus des alpages, viande, charcuterie ou fromage, et ceux issus du littoral, fruits de mer, crustacés ou poissons. Peu de choses prédestinaient Anna Roche à devenir l'une des emblèmes de la nouvelle cuisine mondiale. Cette ancienne membre de l'équipe nationale slovène de ski, diplomate de formation, s'est mise au fourneau après avoir hérité du restaurant familial de son mari œnologue. Sa cote a rapidement monté en flèche tout au long des années 2000 et l'an dernier, elle a participé à la série documentaire Chef's Table de Netflix aux côtés des plus grands chefs internationaux. Depuis quelque temps, la gastronomie slovène a le vent en poupe. Outre la consécration d'Anna Roche, les vins slovènes sont de plus en plus appréciés tout autour du globe. L'engouement est tel que les autorités de Ljubljana misent aujourd'hui sur ce patrimoine culinaire pour attirer une nouvelle clientèle touristique. Il faut dire que face à ses deux voisins, l'Italie et la Croatie, la concurrence est rude. En tout cas, la chef Anna Roche respecte parfaitement le slogan mis en avant par le ministère du Tourisme pour vanter la Slovénie, vert, sain et actif.
Une autre manière de consommer à Paris, dans un quartier populaire du 18e arrondissement, un supermarché nouvelle génération s'apprête à ouvrir. Les clients sont tous des coopérateurs qui ont acheté des parts dans l'entreprise, 100 euros en moyenne, 10 euros pour ceux qui bénéficient des minima sociaux. Parce qu'ils mettent la main à la pâte, les clients bénéficient aussi de prix 15 à 40% moins chers que ceux des commerces traditionnels. C'est le reportage de Christine Zibert.
Qu'est-ce que vous voulez faire ?
Moi, je veux bien les légumes.
Ok, ouais. Quelqu'un peut aller avec elle aux légumes ? Ah, n'oubliez pas de prendre les petits chariots quand vous transportez, ne prenez pas des caisses, parce qu'il y a déjà eu des accidents.
Une fois par mois, les coopérateurs passent dans les coulisses de leur supermarché et tiennent la caisse, font le ménage ou déchargent les livraisons, comme Agathe, qui vient d'assurer son service mensuel de 3 heures.
C'est un travail très physique. Je viens de terminer un déchargement de palettes et de remettre tout en rayon. J'apprends. C'est mon 4e service, je crois, aujourd'hui. Et tous les jours, je me perfectionne dans l'art de la mise en rayon. Bien mettre les étiquettes aussi, bien vérifier que les stocks sont à jour et qu'il n'y a pas de trous dans nos jolis rayonnages. Voilà ce que je fais à peu près.
Agathe fait partie des premiers associés au projet. Depuis 2011, ses membres fondateurs dessinent ensemble leur supermarché de rêve, comme elle dit, et ils ont appris à trouver des compromis.
C'est l'apprentissage de la démocratie. On vote, on peut s'engueuler, on ne peut pas être d'accord, mais c'est nous qui élaborons les règles. Il y a eu des débats sur bio ou pas bio, certains ne voulaient pas de viande. On a des débats, on essaie de faire en sorte que les décisions prises soient comprises par tout le monde et que les gens qui n'ont pas d'opinion aient des opinions éclairées en expliquant vraiment bien les choses. Mais voilà, tout ça c'est un apprentissage long et on ne dit pas qu'on est des cadors et on ne dit pas que c'est facile, on ne dit pas que c'était tout le temps évident. Hein. Et là, on espère qu'une alternative peut être proposée, qu'elle est viable, qu'elle peut être intéressante. En tout cas, on teste, voilà.
La Louve suscite de l'intérêt, c'est sûr. La ville de Paris est partenaire et la maire de la capitale, Anne Hidalgo, est récemment venue en personne pour visiter le lieu et saluer ce modèle économique.
Mais bien sûr, on est à la fois dans ces circuits courts, d'une certaine façon dans une économie plus circulaire. On est dans l'économie sociale et solidaire. Parfois, on nous dit, oui, mais ça, c'est des trucs pour les bobos. Ben, c'est quoi un bobo ? C'est quelqu'un qui a envie de manger bien, de contrôler ce qu'il va y avoir dans son assiette et qui est ouvert aux autres. Ici, il y a à peu près tous les niveaux de panier d'achat. Hein, donc c'est assez universel ce qui est en train de s'inventer ici.
Bobo, le mot est dit. La Louve, un projet de bourgeois bohème parachuté dans un quartier populaire. Pour Aline, elle aussi membre de la Louve, tout doit être fait pour que les habitants du quartier s'approprient encore plus ce supermarché.
C'est un travail de fond, il y a des gens qui attendent de voir. Et ça fait partie du jeu. Et on essaye déjà à réfléchir pour des visites, pour leur faire découvrir. Il y en a qui n'ont pas besoin de voir, qui, les yeux fermés, vont aller sur un projet. Et d'autres ont besoin de voir pour faire. Voilà, il faut accepter ce rapport au temps.
Tom Booth est l'un des inventeurs de la Louve. Il abonde dans le même sens. Ce supermarché doit être avant tout un magasin de quartier.
On est un outil qui reflète les besoins culinaires de notre quartier. En ce moment, c'est la moitié, grosso modo, de nos membres vient du 18e arrondissement. Mais après, tous les arrondissements de Paris sont représentés, ainsi que tous les proches banlieues. C'est à la fois un supermarché du quartier, mais aussi un supermarché pour les personnes qui s'intéressent à ce modèle de partout.
On y parle.
Est-ce que ça marche?
Donc il faut lâcher le bouton, attendre qu'il y ait le bip pour pouvoir parler après.
Bobo ou pas, habitant du quartier ou coopérateur venu de loin, tous apprennent une multitude de tâches et surtout, comme souligne Agathe, à travailler en équipe avec des gens très différents.
Moi, dans mon environnement, je ne rencontre pas vraiment de gens différents. Et rencontrer, c'est une chose, mais travailler avec des gens différents aussi, ça apprend des choses. C'est-à-dire que moi, j'ai, par exemple, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait HEC, j'ai appris les techniques de management, tout ça. Hein, et moi, j'ai aussi appris de retraités qui avaient une façon différente de faire. Au début, je me suis dit, oh là là, c'est bizarre. Et puis, en fait, ça peut très bien marcher. Et c'est comme ça qu'on fait société, avec des gens différents, des gens qui ne pensent pas pareil. Même si, effectivement, il y a un petit tropisme là, parce qu'on a tous envie d'avoir de la bonne bouffe, on a envie d'avoir un rôle social un petit peu, on a envie, on pense à l'éthique de ce qu'on fait. Donc, ça crée quand même un lien qui est sympathique. Mais on a tous des profils différents. Ouais.
Mesdames, c'est avec vous, c'est pour la visite de sécurité. Formidable. Alors,
une équipe de coopérateurs se met en marche pour la visite de sécurité. Tout commence par là, savoir comment agir en toutes circonstances et découvrir jusqu'au dernier recoin de ce projet à multiples facettes, des chambres froides jusqu'à la grande pièce lumineuse où des membres de la coopérative garderont des enfants pendant que les parents feront tranquillement leurs courses.
She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer.
2017, on commémorera cette année les 20 ans de la mort de la princesse Diana avant de dévoiler une statue à son effigie. Le palais de Kensington, son ancienne résidence, propose une exposition sur l'histoire de sa mode, des robes qui racontent tout un parcours et l'affirmation d'une personnalité. À Londres, Marie Billon.
Diana, icône de la mode, c'est à première vue un jugement qui semble aussi solide que les dentelles vaporeuses qui se trouvent au début de l'exposition. Les quatre robes rose bonbon, vert pâle et crème sont en fait des tenues d'ingénue, celles que Diana portait lorsqu'elle était adolescente. Ses premiers modèles sont utiles cependant pour comprendre l'évolution de son style à partir de ses fiançailles. Elle a peu à peu développé un goût vestimentaire plus affirmé, voire osé, et a laissé entrevoir la vraie Diana, la jeune femme espiègle, qui assume le style classique, tout en se permettant de porter par exemple des gants de couleurs différentes pour donner un peu de panache à un monde alourdi par les traditions. En fait, Diana a rapidement compris que son style était un outil de communication, sans compter que sa collaboration avec des couturiers britanniques a permis de promouvoir l'industrie de la mode nationale. Chacune de ses sorties était remarquée. De sa robe blanche, col haut et manches longues avec des faucons brodés, emblème de l'Arabie Saoudite pour une visite officielle à Riyad, à sa robe noire dans laquelle elle a dansé avec John Travolta à la Maison Blanche, en passant par cette robe en velours vert qui porterait encore les traces des petits doigts de ses fils s'accrochant à la jambe de leur mère. Mais si Diana était la princesse du peuple, elle était aussi une princesse travailleuse. Plusieurs tailleurs sobres sont aussi exposés, et c'est important, car elle voulait que les journalistes arrêtent de se focaliser sur ses tenues et parlent plus de son travail. Mais c'est la dernière salle, la plus émouvante. Elle présente quatre des robes que Diana a vendues aux enchères en 1997 au profit d'associations sur les conseils de son fils aîné, William. La presse de l'époque y voyait le symbole d'un renouveau, un nouveau chapitre dans l'histoire princière, mais le livre s'est refermé brutalement sous le pont de l'Alma.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site RFI.fr, rubrique émission et bien sûr Accent d'Europe. Restez à l'écoute de RFI. Dans quelques instants, un nouveau point sur l'actualité internationale.